Barışyar Kadaş, ancien député du CHP à Istanbul.
Avant les élections, la propagande du pouvoir consistait à dire que si le CHP l'emportait dans les grandes villes comme Istanbul et Ankara, il couperait aussitôt les aides pour les plus pauvres. Le pouvoir a peur que ce mensonge éclate au grand jour à la faveur de l'épidémie. C'est la raison pour laquelle il essaye de bloquer toutes les aides fournies par ses mairies.
Particulièrement dans le viseur, le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. L'opposant a révélé cette semaine être la cible de 27 enquêtes du ministère de l'Intérieur. Des enquêtes qui concernent la période entre 2014 et 2019. Où il...
Radio G, 101.5 FM. Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire, dont nous
amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Les bourreaux et victimes en mêlent leur récit »
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé «
Assise près de l'incubateur ». Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous nous sommes posé cette question. Comment peut-on être le frère ou la sœur du précédent? Et c'est une question commune à trois textes écrits en 2006 pour Jean-Bertrand Pontalis et en 2011 pour Annie Ernaux et Jérôme Garcin. Question qui semble tout à coup aussi stupéfiante que celle imaginée par Montesquieu dans les Lettres persanes, où il fait s'exclamer les Parisiens découvrant ébahis Usbek et Rika. Comment peut-on être persan? Mais ici, chacun des auteurs pose cette question différemment et dans des circonstances singulières. Chacun d'eux s'appuie sur son vécu spécifique de frère ou sœur du précédent. Annie Ernaux, comme les deux autres auteurs, a eu une sœur décédée dont elle restitue l'histoire et se faisant la sienne. Mais pour cet auteur, la précédente n'a jamais été connue par la romancière qui d'ailleurs n'a appris, et de façon fortuite, l'existence de cette sœur aînée morte du tétanos comme une petite sainte que l'année de ses 10 ans. Jean-Bertrand Pontalis a eu un frère admiré et détesté, Jean-François, mort au moment de cet essai, écrit qui oscille entre essais thérapeutiques et études sur les frères célèbres. Jérôme Garcin, lui, célèbre la présence de son jumeau, Olivier, mort à 6 ans, mais toujours présent dans sa vie intime. Ce faisant, tous ses écrits s'efforcent de cerner cette réalité si délicate de la place dans la fratrie, du lien avec le frère ou la sœur disparue. Ceci s'exprime dans la plupart des cas par le biais d'une adresse, tendre ou vindicative.
Après l'état civil, tu es ma sœur. Tu portes le même patronyme que le mien, mon nom de jeune fille, Duchesne. Dans le livret de famille des parents presque en lambeaux, à la rubrique « Naissance et décès des enfants issus du mariage », nous figurons l'une au-dessous de l'autre. Toi, en haut, avec deux tampons de la mairie de Lillebonne, Seine inférieure. Moi, avec un seul. C'est dans un autre livret officiel que sera remplie pour moi la case d'essai, celui qui atteste de ma reproduction d'une famille avec un autre nom. Mais tu n'es pas ma sœur, tu ne l'as jamais été. Nous n'avons pas joué, mangé, dormi ensemble. Je ne t'ai jamais touché, embrassé. Je ne connais pas la couleur de tes yeux, je ne t'ai jamais vue. Tu es sans corps, sans voix, juste une image plate sur quelques photos en noir et blanc.
Frère du précédent, un jour, il y a une vingtaine d'années de cela, Jean-François me dit « Tu sais ce que j'espère ? C'est que si ton nom apparaît dans un dictionnaire, j'y sois mentionné aussi comme frère du précédent. » Cela me fit sourire à l'époque. Cela m'émeut aujourd'hui. Jean-François, un enfant si brillant, si charmeur, adulé par les grandes personnes. Un jeune homme si prometteur, deviendrait-il ambassadeur, écrivain renommé ? L'Académie française l'accueillerait assurément avec ferveur. Un garçon si doué, si drôle, si intelligent, tant de si, tant de trop. Venu sur le tard à cet aveu, sincère ou fin, qui faisait de moi son aîné. Me revient à l'instant une anecdote. Au cours d'une distribution des prix de fin d'année, je reçus, à mon tour d'être couronné de laurier, un livre doré sur tranche intitulé « L'enfant prodigue ». Je me rappelle avoir dit au proviseur « Ah non, mon frère, oui, pas moi ». J'avais entendu « L'enfant prodige ». Cela allait de soi. Je ne pouvais, en ces temps-là, que m'effacer devant l'aîné. Et voici que 50 ans plus tard, l'aîné s'effaçait, ne demandant humblement qu'à être le frère du précédent. Serait-il donc impossible d'exister sans que l'un efface l'autre ? L'ancien enfant prodige, qu'a-t-il fait de ses dons ? Quel parti a-t-il tiré de ses lectures, de sa proximité avec des écrivains et des poètes, Cocteau, Genet, Olivier Laronde, Violette Leduc, Louise de Villemorin, bien d'autres ? De ses rêveries prolongées que, pendant tout un temps, suscitaient les fumées de l'opium ? Qu'est devenu son journal où, j'imagine, il n'épargnait personne, ni ses amis, ni lui-même, lui, qui s'était exclamé à mon adresse, publié de son vivant, c'est d'un vulgaire. Posthume, mon bon Jean-Bernard, posthume. De lui, à part quelques pages inachevées, il ne reste rien. Même le posthume, il l'a refusé.
On n'est jamais vraiment certain du moment où l'on se croit guéri, où l'on commence à s'aguerrir. Peut-être sont-ce deux verbes jumeaux. Étrange exercice que celui auquel, depuis 4 mois, je me plie dans tous les sens du terme. Il tient à la fois de l'apostrophe, de l'invocation et de la prière. Il récompense une très longue conversation, m'oblige à mettre des mots sur le je ne sais quoi, le presque rien qui sont tapis en moi. Cela fait des années, en effet, que je te parle à voix basse, te questionne, te confie mes certitudes et mes doutes, me soumet à ton jugement, au fil d'un conciliabule permanent dont personne n'a idée. J'en reproduis ici quelques instants et, pour la première fois, m'adresse publiquement et directement à toi, Olivier, dont la photographie ne quitte jamais mon portefeuille, bien au chaud sur le cœur qui bat la chamade. Il s'agit d'une carte que mes parents avaient fait imprimer au lendemain de ta mort. Au recto, tu souris, un grand sourire qui éclaire ton visage maigre, aux cheveux courts, au front haut et aux oreilles un peu décollées. Tu portes un pull en V et un polo. Tu n'as presque pas d'épaule, tu n'es que finesse, avec quelque chose de transparent. Au verso, cette inscription. Olivier Garcin, 4 octobre 1956, 7 juillet 1962. Qui est augmentée d'une citation, Et moi, comme l'olivier verdoyant dans la demeure d'Élohim, je m'abandonne à la gloire de Dieu pour l'éternité. Psaume 52, 10. Dieu, toujours, omniscient, démiurgique, réconfortant, appelé à la rescousse par notre mère et notre père afin de raisonner leur douleur, donner un sens à ce qui est insensé et faire que ta mort ne soit pas un scandale, mais un sacrifice. C'est comme si, en disparaissant, tu apportais une preuve supplémentaire de ton existence, comme si ton absence signait sa présence. Insondable mystère de la foi. Ce Dieu m'a manqué lorsque, soudain seul, le 4 octobre, j'ai fêté mes 6 ans. Je n'étais même pas à ton enterrement, qui se déroula au plus chaud de l'été. Je n'ai pas vu ton petit cercueil descendre au fond obscur du caveau. Il fut un temps où, quand on m'interrogeait sur toi, ma gorge se nouait. J'étais envahi par d'irrépressibles sanglots. Je n'arrivais jamais à raconter la scène de l'accident, le vol plané de ton petit corps et la voiture qui ne s'arrête pas, qui continue sa route dans une féroce accélération d'indifférence. Je me souviens de cette journaliste de la radio suisse romande, attentive et bienveillante, qui était venue avec son magnétophone pour recueillir mes souvenirs familiaux. L'entretien avait très bien commencé, de manière presque allègre. J'avais évoqué l'étonnante dynastie de grands médecins, aussi bien du côté maternel que paternel, qui remontait à la Révolution française et dont, couverts d'énigmatiques syndromes, le syndrome Garcin, le syndrome Guillain-Barré, j'étais le descendant un peu ébahi. J'avais parlé de mes parents qui, les premiers, avaient rompu le pacte d'Hippocrate en sacrifiant la tradition familiale à l'amour inédit de l'art et de la littérature. Et puis, soudain, il fut question de toi. Je commençais à décrire ce retour de week-end un dimanche soir, et il me sembla revivre au ralenti chaque minute du drame. Je n'arrivais pas au bout de ma phrase. Je pleurais comme un enfant et priais la journaliste, dans un geste muet, d'éteindre son appareil. Après quoi, je lui demandais de m'excuser. J'avais craqué. Je n'aime pas ça. C'est comme si j'étais nu.
Dénuement, dépossession, sentiment de perte obsède ces auteurs qui dressent le tombeau du disparu. Et c'est dans ce creux, cette absence que chacun d'eux redéfinit rageusement, poétiquement ou à la lumière de la psychanalyse sa propre présence. Jean-Bertrand Pontalis a une appellation très parlante, la frérocité.
Quand le second est né, le premier s'est écrié « Comme il est moche !» Quand le second est entré au lycée, il portait des culottes courtes, le premier des pantalons longs. Quand le second a reçu le prix de thème latin, il en avait obtenu d'autres, le premier a glissé à l'oreille de leur mère, mais le second a entendu c'est le prix qu'on donne aux élèves appliqués qui ne sont doués pour rien. La rédaction du cadet fut un grand jour pour lui. Il n'en dit rien à personne. Le premier faisait rire la mère. Le second, jamais. Second, il y eut peut-être une petite sœur morte à la naissance, à moins que la mère n'ait fait une fausse couche. La chose ne fut jamais éclaircie. Du premier, on disait qu'il était nerveux. Du second, qu'il était quasiment muet. Le premier faisait des otites à répétition, le second se contenta d'avoir la rougeole. Quand le second eut 15 ans, le premier, lui fit découvrir la littérature. Quand à la même époque, ils vont se promener ensemble dans la ville, il n'y a plus de premier et de second. Un des deux a quelques années de plus, voilà tout. Ce sont deux jeunes gens, à la fois sérieux et rieurs, qui échangent leurs impressions de lecture, imaginent la vie des passants qu'ils croisent. Ils diffèrent l'un de l'autre, mais portent tous les deux la même canadienne. C'est l'hiver, l'air est vif, ils marchent d'un bon pas. Le cadet vient de retrouver quelques lettres qu'il a reçues de l'aîné. Certaines débordent d'affection, d'autres sont pleines de fiel. Le premier est quelqu'un de très compliqué, le second se veut et se croit simple. Il déteste l'affectation, la mascarade. Il ne s'attache qu'à des femmes qu'il trouve naturelles. Le premier, à l'exemple des grandes familles aristocratiques, se réclame de ses ascendants, dont plusieurs ont connu une certaine notoriété. Il s'invente même des ancêtres plus illustres. Il n'a pas d'enfant. Le second n'a que faire des généalogies réelles ou fictives. Ce sont ses enfants dont il se soucie, dont il est fier. Serait-ce sa façon de se situer au commencement, d'être le premier? Quand le premier parlait de quelqu'un, aussitôt il le rattachait à un autre, et cet autre à un autre, et ainsi de suite. D'aiguillage en aiguillage, de bifurcation en bifurcation, il ne paraissait pas s'égarer, le train s'accélérait même, filait à toute allure. Le second, lui, était vite distancé, il ne pouvait pas suivre. Il se demandait ce que le premier fuyait dans cette course éperdue. En se raccrochant à tous ces noms, tous ces lieux, à toutes ces histoires évoquées, en s'évertuant à parcourir le temps dans tous les sens, si c'était lui, l'aîné, qui s'était perdu. Au dire de ses amis, le premier suivait de très près les succès du second. Il leur disait sa fierté d'avoir un frère comme celui-là. Le second ne l'a su qu'après la mort du premier. Tout premier est jaloux du second, l'intrus. Le second est jaloux du premier arrivé. L'enfant unique pâtit d'être l'unique de sa mère. Dans une famille nombreuse, pas facile de trouver sa place. Il n'existe pas de bonne solution. Mais il y a pire encore. Avoir été volé de son enfance.
C'est un dimanche, en fin d'après-midi. Depuis un moment indéterminé, ma mère est en grande conversation avec une jeune femme du Havre qui passe les vacances avec sa petite fille de 4 ans chez ses beaux-parents, les S, dont la maison se trouve à une dizaine de mètres plus loin dans la rue de l'école. Sans doute est-elle sortie du magasin, qui ne ferme jamais à cette époque, pour continuer de bavarder avec sa cliente. Je joue près d'elle avec la petite fille, elle s'appelle Mireille, à courir et nous attraper. Je ne sais pas comment j'ai été alertée. Peut-être la voix de ma mère, plus basse, d'un seul coup. Je me suis mise à l'écouter, comme si je ne respirais plus. Je ne peux pas restituer son récit, seulement sa teneur, et les phrases qui ont traversé toutes les années jusqu'à aujourd'hui se sont propagées en un instant sur toute ma vie d'enfant, comme une flamme muette et sans chaleur, tandis que je continuais de danser et de tournoyer à côté d'elle, tête baissée pour n'éveiller aucun soupçon. Ici, il me semble que les paroles déchirent une zone crépusculaire, me happent et c'en est fini. Elle raconte qu'ils ont eu une autre fille que moi. et qu'elle est morte de la diphtérie à 6 ans avant la guerre à Lillebonne. Elle décrit les peaux dans la gorge, l'étouffement. Elle dit « Elle est morte comme une petite sainte ». Elle rapporte les paroles que tu lui as dites avant de mourir. « Je vais aller voir la Sainte Vierge et le bon Jésus ». Elle dit « Mon mari était fou quand il t'a trouvée morte en rentrant de son travail aux raffineries de Port-Jérôme ». Elle dit « C'est pas pareil de perdre son compagnon ». Elle dit de moi « Elle ne sait rien, on n'a pas voulu l'attrister ». À la fin, elle dit de toi « Elle était plus gentille que celle-là ». Celle-là, c'est moi. Pas plus qu'une photo, la scène du récit n'a bougé. Je vois la place exacte des deux femmes dans la rue, l'une par rapport à l'autre. Ma mère en blouse blanche, s'essuyant les yeux de temps en temps avec son mouchoir. La silhouette de la jeune femme, plus élégante que les clientes habituelles, en robe claire, ses cheveux tirés en arrière, en un chignon bas. Sa figure d'un ovale doux. Plus que tout, la réalité de la scène m'est attestée par une sorte d'hallucination corporelle. Je me sens courir en cercle rapproché autour des deux femmes. Je vois les silex de la rue de l'école, qui ne sera goudronnée que dans les années 80, le talus, le grillage, la lumière faiblissante, comme s'il fallait absorber tous les corps du monde pour supporter ce qui arrive. Gentille. Il me semble que je savais déjà que ce mot-là ne pouvait pas m'être appliqué d'après les qualificatifs que je recevais quotidiennement de la part des parents au gré de mes comportements. Intrépide, coquette, sale, goulue, mademoiselle je sais tout, déplaisante, tu as le diable au corps. Mais leurs reproches glissaient sur moi dans la certitude d'être aimée que prouvaient leurs soucis constants de ma petite personne et leurs cadeaux. Fille unique, gâtée parce qu'unique, toujours première de classe sans effort, je me sentais en somme le droit d'être ce que j'étais. Gentille, ça voulait dire aussi affectueuse, câline, amitieuse, ainsi qu'on disait en normand pour les enfants et les chiens. Distante avec les adultes, préférant les observer et les écouter plutôt que les embrasser, je ne passais pas pour telle. Mais avec eux deux, j'étais sûre de l'être, plus même que d'autres enfants. 60 ans après, je n'en finis pas de buter sur ce mot, d'essayer d'en démêler les significations par rapport à toi, à eux, alors que son sens a été aussitôt fulgurant, qu'il a changé ma place en une seconde. Entre eux et moi, maintenant il y a toi, invisible, adoré. Je suis écartée, poussée pour te faire de la place, repoussée dans l'ombre tandis que tu planes tout en haut dans la lumière éternelle. Comparée, moi, l'incomparable, l'enfant unique. La réalité est affaire de mots, système d'exclusion, plus, moins, où, et, avant, après, être ou ne pas être, la vie ou la mort.
C'était un été à la fin des années 60, à La Caravelle, la longue maison blanche de nos grands-parents paternels, située dans un tournant à l'entrée de Saint-Laurent-sur-Mer, Calvados. La famille rassemblée est régie par les lois, le protocole, les horaires, les menus qu'imposait avec autorité le professeur Raymond Garcin, s'appliquait à faire croire qu'elle était au complet pour les vacances, que nul ne manquait à l'appel, 13 heures précises pour le déjeuner, 20 pour le dîner. Jamais on n'évoquait devant moi ton absence. Depuis l'accident, toutes les preuves tangibles de notre gémellité avaient disparu. Lit, ciré, bob, pelle, râteau, filets à crevettes, ballons, teckels en plastique, tout ce qui allait par pair était devenu unique. Tout ce qui était à l'identique semblait dépareillé. Les cousins, d'une bonne humeur créole, se chargeaient de me divertir, d'occuper sans cesse l'espace et le temps, de s'ingénier à contourner le vide que tu avais laissé, de sauter le malheur, comme par crainte d'être sentimental, Stendhal sautait le bonheur. Devant la maison, il y avait une rangée de vieux arbres sous la géométrique frondaison desquels étaient rangées les voitures. La fascinante et royale Versailles noire de mon grand-père, à bord de laquelle, chaque matin, à la vitesse d'un char à bœufs, il se rendait à son service de neurologie de la Pitié-Salpêtrière. La Dauphine, Dorée, de ma grand-mère normande, Yvonne, née Guilin, au volant de laquelle elle se tuerait quelques années plus tard. La 203 grise, de notre père, la ronde, gris-vert, de mon oncle Claude, dont la portière portait encore la trace du sanglier qui, sur une route de forêt, l'avait méchamment embouti. La 4L, beige, de Jean-Loup, mon autre oncle mélomane, qui aimait tant rouler avec Mozart. La traction avant, de ma tante Christiane, qui sentait l'huile chaude, la réglisse, la peinture FFI, et ce qu'on imaginait être l'enivrante odeur de la libération. Je devais avoir 12 ou 13 ans. Les adultes, habillés de blanc et de crème coloniaux, étaient debout sur la pelouse. Ils prenaient le parcimonieux soleil normand. Je portais dans mes bras le gazouillant petit frère, Laurent, qui était né 3 ans après ta mort. Et puis soudain, tout alla très vite. Une des voitures, je ne sais plus laquelle, recula lentement. Une ultime course à faire, sans doute. Pour le déjeuner, il n'y avait aucun danger. Mais notre père se précipita, arracha Laurent de mes bras, le serra fort comme s'il était menacé, et de sa main droite, me gifla. De toute sa vie, il ne m'avait jamais touché, jamais frappé, et il m'avait si peu grondé. C'était l'homme le plus doux que je connusse. Mais ce jour-là, il fut saisi par une panique irrépressible. Il crut voir la voiture faire marche arrière dans ma direction. Les images de l'abominable film repassèrent sans doute en accéléré dans sa tête. Sa violence à mon égard fut l'expression d'une révolte et d'un désespoir que rien ne parvenait à juguler. La peur ne le quittait plus. Elle seule faisait encore trembler cet homme d'acier. Je restais quoi ? La joue brûlante, les bras ballants, sans comprendre la scène qui venait de se dérouler si vite. Le plus jeune de nos oncles, Thierry, m'emmena par la main dans le garage, où il s'accroupit pour me murmurer, les yeux dans les yeux, « Il faut le comprendre, il faut que tu le comprennes. Le temps finira par tout apaiser, crois-moi. » C'est qu'il n'avait rien pu faire, notre père. Lorsque, retour de Bray-sur-Seine, nous lui demandâmes de s'arrêter sur le bas-côté pour aller saluer des vaches, et que tu traversas la route en courant, sans regarder la voiture qui fonçait vers toi, et te projeta en l'air, toi le si léger, le si fragile. C'était un accident, je l'ai vécu comme un meurtre. On t'a tué, Olivier, sous mes yeux. On t'a arraché à moi. Et le conducteur fou ne s'est pas arrêté. Assassin et lâche, il a fui son crime. Tu es entré ensuite dans un long coma. À ton chevet, nos parents prièrent et en appelèrent à la Vierge Marie. Sans doute, notre père a-t-il vécu dans le remords de ne t'avoir pas retenu lorsque tu t'élanças, inconscient et rieur, sur le macadam.
La rivalité exacerbée par l'idéalisation du disparu est insupportable pour Pontalis comme pour Annie Ernaux. Dans le cas de Jérôme Garcin, le regret de son jumeau offre à sa réflexion une analyse de son caractère et une émouvante déclaration d'amour à sa femme, Anne-Marie Philippe, fille de Gérard Philippe, et à leurs 3 enfants.
Je me demande souvent de quoi le destin t'a privé. Cette vie qui t'a été refusée, qu'en ai-je donc fait ? Ai-je vraiment mérité de continuer seul sur la route au début de laquelle tu as été renversé ? Calcule-t-on, comme l'arpenteur mesure avec un décamètre les surfaces et les relèvements de terrain, ce que l'on a réussi, ce que l'on a manqué, ce qui nous a élevés ou au contraire rabaissés ? De ces questions sans réponse viennent sans doute, chez moi, le goût permanent des bilans provisoires, le besoin de toujours estimer le chemin parcouru, de vérifier la solidité de ce que j'ai construit, de m'assurer que je ne me suis pas fourvoyé, que j'ai avancé droit, que je n'ai pas vécu en vain. Au volant, traçant dans la nuit mécanique ou à cheval au fond des forêts bavardes, je me jauge, je me juge, je suis mon inflexible et persistant procureur. Il me semble que, m'observant, guettant mes écarts ou approuvant mes choix, tu n'es pas moins sévère. Comme si tu exigeais sans cesse de moi que j'accomplisse ce que tu n'as pas pu réaliser et aspirais à ce que je te prolonge. Voici donc, pour toi et sans tricherie, mon actif du jour 28 mars 2010, temps gris, air humide, léger vent de la mer sur colline assoupie. J'aime et admire une femme qui n'est pas ordinaire. On s'est marié il y a 30 ans dans une maison de verre ouverte de part en part à la lumière. Elle était impétueuse, sauvage, délicieusement urticante, plus fine et pointue qu'une lame, ravissant nez Philippe, bouche nacrée, yeux noisettes dans leur involucre vert, peau salée d'ondine. Une blonde avec un caractère de brune, une âme sudiste dans un corps du nord, le mistral ajouté au blizzard, un oxymore au galop chaloupé. Je l'ai regardée jouer la comédie, dormir, lire, rire, crier, tomber, se relever, monter à cheval, jardiner, nager, douter, s'énerver, se braver, se maquiller, se réinventer. Je ne l'ai jamais vue faire la sieste, s'ennuyer, abdiquer, tricher, s'alourdir, s'abaisser, se négliger, se préférer. Je suis incapable de vivre sans elle. J'ai seulement tenté de ne pas la décevoir. Tu l'aurais adorée. Peut-être me l'aurais-tu secrètement jalousée. J'avais 20 ans lorsque je l'ai rencontrée. C'est étrange, l'amour. Elle ne savait presque rien de moi, j'ignorais tout d'elle. À aucun moment, nous n'avons eu besoin de nous dire ce que nous avions en commun et qui ressemble à de la lave en fusion. L'envie pressante de construire en hauteur, sur le caveau profond des pères morts, une maison sans volets où grimpe la glycine et montent en spirale des airs mozartiens et des voix de haute contre. Les enfants sont venus vite. 1, 2, 3. Un garçon, une fille, un garçon. Des œuvres d'art vivantes. D'immenses toutes petites vies. Des promesses d'extase. Des tempétueuses sources de vie. Et chacun, me semblait-il, déjà son caractère propre, malgré le sang commun. Anne-Marie leur donnait la vie, les créait, les léchait. Je coupais le cordon, les nettoyais, les serrais contre mon cœur, et l'on sablait le champagne dans la salle de travail, qui sentait à la fois le raisin blanc et le désinfectant. Je n'ai jamais été plus heureux, ni versé tant de larmes. J'aurais voulu hurler mon bonheur d'être un vivant 3 fois plus vivant qu'avant leur naissance.
De même, Jean-Bertrand Pontalis, analysant les relations entre Marcel Proust et son frère Robert, écrit ceci.
Dans une lettre qu'il envoie à son frère, Marcel cite ce vers de Rodogune. Ô frère, plus chéri que la clarté du jour. Il omet le vers suivant qui commence ainsi. Ô rival. En cherchant bien, sans doute, trouverait-on, au détour d'une lettre à la mère, quelques traces écrites de cette rivalité fraternelle. Elle est inévitable. Les jumeaux l'ignorent-ils? Elle doit bien apparaître un jour, afin qu'ils se différencient. curieux, le père est oublié dans l'affaire. À ce moment-là, un deuxième enfant est arrivé et avec lui, une forte déception. Eh bien, avant Freud, Saint-Augustin, dans ce passage bien connu des Confessions où il évoque un enfant devenu tout pâle en voyant un autre enfant téter le même sein que lui, serait-ce là l'origine de l'envie ? À son petit frère chéri, elles nous paraissent excessives, donc suspectes. Mais avec Proust, c'était le cas avec tout le monde, est douloureusement vécu l'arrivée de l'intrus est chose possible. Certains commentateurs l'ont affirmé jusqu'à y voir l'origine de sa nervosité et de son asthme, un mal qui contraignait sa mère à prendre soin de lui. Ainsi, ils resteraient toujours l'un près de l'autre, ils pourraient se plaindre de ses suffocations, elle pourrait le consoler au risque de l'étouffer par trop d'amour. Le père, quoique grand hygiéniste, resterait impuissant face aux crises des armées.
Quant à Annie Ernaux, à son habitude, elle dissèque froidement cette idéalisation qui fait de sa sœur disparue une héroïne de film.
Je n'ai pas de mémoire de toi. Tu étais déjà morte depuis 2 ans et demi quand je suis née. Tu es l'enfant du ciel, la petite fille invisible dont on ne parlait jamais, l'absente de toutes les conversations, le secret. Tu as toujours été morte. Tu es entrée morte dans ma vie l'été de mes 10 ans. Née et morte dans un récit, comme Bonnie, la petite fille de Scarlett et de Rhett, dans Autant en emporte le vent.
Ce qui est peut-être le plus intéressant à observer pour chacun de ces 3 auteurs, c'est que cette relation à la fois conflictuelle et essentielle à l'autre, née de la même mère et du même père, construit le besoin d'écrire. Est-ce que je t'écris pour te ressusciter et te tuer à nouveau ? S'interroge Annie Ernaux. On notera l'utilisation des crochets qui souligne l'hypothèse quelque peu indicible. Plus loin dans le texte, elle propose cette autre version. Je n'écris pas parce que tu es morte. Tu es morte pour que j'écrive. Ça fait une grande différence. Pontalis, quant à lui, se justifie, inventant un interlocuteur imaginaire. Il sonde ses raisons les plus profondes d'écrire à propos de ce lien fraternel.
Lassitude, envie de renoncer. Ces histoires de frères qui s'aiment, se haïssent, se disputent l'amour de la mère, du père, je m'en sens prisonnier. Je me dis, comme il nous arrive sottement de le dire à d'autres, mais enfin, tout cela, à quoi bon le ressasser ? Tu tournes en rond ? Alors je vais voir ailleurs, j'écris autre chose pour me distraire, des textes courts, distants de moi. Mais ce temps de distraction ne dure pas. Je me retrouve soumis à quelques contraintes intérieures obscures. À mon interlocuteur imaginaire, je réponds, mais non, je ne ressasse pas, j'avance lentement, parfois je reviens sur mes pas, sur les pas de qui ? Je l'ignore. L'interlocuteur insiste, mais que comptes-tu trouver en fin de compte ? Le secret de la jalousie ? Aurais-tu l'ambition de découvrir l'origine des guerres, de dénoncer l'hypocrisie de tout appel à la fraternité ? Tu as parlé d'enquête, mais permets-moi de te dire que ton enquête piétine. Non. Mon enquête a la forme d'une spirale. Elle est faite d'une série de couches qui tournent autour d'un point fixe. Comment dit-on en photographie, le point focal?